Après la victoire des Crocodiles contre Cannes il y a 2 semaines, promesse d'une possible accession en Ligue 3, la défaite du 2 mai contre la modeste équipe de Andrézieux-Boutéon a terni quelque peu l'avenir. La victoire contre Istres ce samedi 9 mai offre une dernière chance d'accéder à l'échelon supérieur, verdict samedi prochain en souhaitant très fort une défaite de Cannes. Il est difficile d'être supporter et pas seulement à Nîmes, et les déceptions, les frustrations sont sûrement aussi nombreuses que les moments de joie et de plénitude. Le sport est ainsi fait, il satisfait davantage les pratiquants que les supporters, impuissants et soumis aux fortunes et infortunes des événements. Des trois grandes passions nîmoises, l'opéra, la corrida et le football, c'est bien ce dernier qui a le mieux résisté. Malgré la descente de l'équipe première en 4e division, malgré les incertitudes autour du stade résident, l'incompréhension parfois envers les présidents. Et même si le cadre de cette passion a évolué, s'éloignant d'une forme de proximité avec le club et ses dirigeants, quand le siège se trouvait au-dessus du Café de l'Industrie sur le boulevard Amiral Courbet, elle reste encore vivace quand l'avenir du Nîmes Olympique et de ses stades devint un des enjeux des dernières élections municipales. La passion pour l'opéra a duré 150 ans et s'est éteinte lentement et sûrement après la destruction par les flammes de l'ancien théâtre en 1952, remplacé 40 ans plus tard par le Carré d'Art. Dès le début du 19e siècle, les Nîmois purent goûter au Barbier de Séville, à Othello de Rossini, le Don Juan puis les Noces de Figaro de Mozart. Le 3 mars 1875, Carmen de Bizet, d'après la nouvelle de Mérimée, fut représentée pour la première fois à l'Opéra Comique de Nîmes. On y présentait également des pièces lyriques, écrites par des compositeurs nîmois, interprétées par des chanteurs nîmois, dont les noms ont été oubliés. Les deux philosophes, opéra de Bourrier, compositeur qui utilisait le galoubet, instrument local dans ses compositions. Jean-Pierre Soulier également, compositeur nîmois, dit Soulier. Cette passion fut incarnée et prolongée par le talent de Régine Crespin, dont journaliste et chroniqueur se plaisait à poser la question. Régine Crespin est-elle marseillaise ou nîmoise? Née à Marseille en 1927, installée à Nîmes avec sa famille dès ses 5 ans, c'est elle qui trancha le dilemme. Ma vraie vie, mon adolescence, mes études, mes premières leçons de piano puis de chant, mes premières amours, mes premiers chagrins, mes morts furent à Nîmes, que je considère comme ma ville. Régine Crespin remportera son premier grand succès dans sa ville, où elle reçoit un accueil triomphal en 1950 à 23 ans, pour y chanter Desdemone dans l'Othello de Verdi. Elle reviendra chanter la Tosca de Puccini en mars de l'année suivante. Elle a défendu la musique française sur toutes les scènes du globe, d'abord de façon traditionnelle comme d'autres avec Faust, Carmen, mais également avec des œuvres nouvelles, comme le dialogue Robert Chalavet, des Carmélites de Francis Poulenc, ou peu jouées parce que très difficiles comme les Troyennes de Berlioz. L'enregistrement en 1963 à Genève sous la baguette d'Ernest Ansermet, à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, des Nuits d'été de Berlioz et de Scheherazade de Ravel, est considéré comme le modèle absolu de l'interprétation. À son propos, une journaliste écrivit « Comme Norma pour Callas, on ne voit pas très bien comment une interprétation pourrait aller encore au-delà de cette perfection. » La passion corrida a débuté également au 19e siècle, pour s'installer plus longtemps encore dans le cœur des Nîmois. Corrida et opéra s'entremêlèrent même pour la première fois le 12 mai 1901, quand l'opéra Carmen fut complété dans les arènes de Nîmes par la mise à mort d'un taureau. La passion corrida atteindra son apogée quand les maestros espagnols et les artistes se retrouvaient dans les arènes après le milieu du 20e siècle. Picasso côtoie les toreros jusque dans leur chambre d'hôtel avant le paseo. Il était un peu d'Espagne pour ces combattants de l'après-midi. Nîmes était devenu un rendez-vous intellectuel et artistique hors du commun, raconta plus tard Françoise Gillot, sa muse de l'époque. On pouvait apercevoir dans les arènes Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Blaise Sandras, Bernard et Annabelle Buffet, Michel Léris, Georges Bataille, André Castel, Jean Pollan, Marc Bernard, Marc Dubuffet, et puis des hommes politiques également. Le peintre Angelo Arroyo signa la première affiche de la Feria en 1984. L'immense Francis Bacon réalisa celle de 1992, renforçant encore l'environnement artistique. Et puis la magie s'était au-là, l'air du temps probablement, mais les disparitions des figures nîmoises, le torero Nimeño II et le peintre Michel Gilles, figures populaires et nécessaires, ôtèrent à la Feria une partie de sa légèreté et de sa spécificité. Nîmeño dans les arènes, c'était tous les Nîmois qui toréaient. Sa statue veille encore sur le parvis des arènes. Quant au peintre Michel Gilles, nul n'oubliera sa stature, son jean et ses bottes en cuir. Il était l'âme de la Feria, mais également un talent reconnu, parfois copié. Ses proches affirmaient qu'il vivait comme il peignait, avec éclat et passion. J'aurais pu, comme j'avais cru bon de le faire dès le départ, m'orienter sur des choix d'image et de réflexion plus personnels, et donner dans le sens de la modernité. J'ai renoncé pour renouer avec l'imagerie populaire, par amour pour ma ville. En 1960, il avait signé la première banderole de la peigne à Chicoello 2. 40 ans plus tard, il bouclait la boucle, en signant l'affiche de la première feria du troisième millénaire. Allez Nîmes, et allez les crocos!